Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. À la fin, parce qu'il y a eu un début. Ce début, c'est au moment du péché originel, lorsque Dieu annonce aux démons devant Adam et Ève qu'il mettra une inimitié entre le démon et la femme, entre sa descendance du démon et celle de la femme, et que la femme lui écrasera la tête. Toute l'histoire de l'homme, de l'humanité, se déroule entre ces deux termes. Et on peut dire que toute l'histoire de l'humanité est apocalyptique. C'est une lutte terrible, une lutte à mort. La puissance de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu le démon, mais celui-ci, dans son orgueil, dans sa haine, n'a pas voulu s'avouer vaincu. Et le bon Dieu, dans sa providence, a permis que le démon regagne progressivement la place qu'il avait perdue. Le bon Dieu, l'a permis. Je pense que la principale raison pour laquelle la Providence semble laisser un relatif libre cours aux démons, c'est en punition des péchés des hommes. Nous le voyons bien dans le message de Fatima. La Sainte Vierge donne des remèdes. Si on les applique, elle promet la paix, c'est-à-dire surtout la paix avec Dieu, c'est-à-dire la grâce, la vertu, le salut. Si on ne les applique pas, alors ce seront des guerres terribles, et les guerres sont les moyens par lesquels le démon, d'une part, détruit ses propres complices parce qu'il vit dans la haine, et d'autre part, assoit son empire sur le reste du monde. Lorsque l'homme veut se révolter contre Dieu, la pire punition que Dieu puisse lui infliger, c'est de le laisser faire sa propre volonté. Et à ce moment-là, l'homme, pendant un temps, se croit victorieux, jusqu'au moment où sa propre faute le détruit. Sa propre complicité avec le démon le soumet au démon, et à ce moment-là, le démon est l'instrument de Dieu pour la vengeance du bien. L'Apocalypse est un livre prophétique, et il y a évidemment un lien entre cette première prophétie au moment du péché originel, l'Apocalypse et le message de la Très Sainte Vierge à Fatima. La première partie du secret, je dis première partie parce qu'il n'y a pas trois secrets, il y a un secret en trois parties, de même qu'il y a une histoire de l'humanité en plusieurs phases. Il n'y a pas le Christ à côté du démon, la civilisation chrétienne à côté d'autre chose. Il y a le Christ, le Messie qui vient, qui règne dans le monde comme Christ roi. Et il y a, comme je vous le disais, les hommes qui, sous l'influence du démon et avec la complicité du démon, cherchent à s'opposer à lui. La première partie du secret la Sainte Vierge montre aux petits-enfants de Fatima l'enfer et les âmes qui tombent en enfer. C'est-à-dire les victimes du démon, bien sûr, ce sont des victimes consentantes, sinon elles ne seraient pas coupables, elles ne seraient pas responsables. Ce sont des victimes consentantes, mais malgré tout, notre Seigneur a bien dit sur la croix, « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ils savent sans savoir, ils ne se rendent pas compte. Ils savent suffisamment pour être responsables et coupables, mais ils ne savent pas quelle est la malice du démon et quelle sera la haine du démon à leur égard. C'est la victoire du démon, c'est la lutte en général des bêtes de l'Apocalypse. Et le remède à cela, c'est prière et pénitence pour la conversion des pécheurs. Et puis, la Sainte Vierge montre ensuite dans la deuxième partie du secret, elle demande dans la deuxième partie du secret, la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Parce que dans l'Apocalypse, chapitre 12, le premier auxiliaire du démon est une bête puissante, et tous les pères de l'Église ont toujours vu dans cette bête le pouvoir politique dont le démon cherche à faire son premier complice. Le pouvoir politique a, comme le nom l'indique, un pouvoir, c'est-à-dire une puissance, et le démon a évidemment bien plus intérêt à obtenir la complicité du pouvoir politique que des simples individus. Avec les individus, c'est à refaire à chaque fois, même s'il obtient un père ou une mère de famille, il obtiendra toute la famille, mais ce sera à recommencer avec les autres familles. Tandis que s'il obtient le pouvoir politique d'un pays, c'est une grande partie de ce pays qui va tomber sous son influence. Les pères de l'Église appliquaient cela à l'Empire romain, dont les persécutions furent terribles, mais ils ne manquent pas d'avertir que l'Apocalypse s'accomplit pas pleinement dans l'Empire romain. Celui-ci n'est qu'une annonce, une annonce dans l'histoire qui nous permet de mieux comprendre la prophétie. Et le pouvoir politique aujourd'hui, c'est le communisme. Le communisme dont les idées pénètrent partout. Il est étonnant, stupéfiant, de voir à quel point les pays dits libres sont plus communistes, aussi communistes, disons, que les pays communistes. La Sainte Vierge voyait très bien que la Russie allait répandre ses erreurs, et bien que, malgré la chute du rideau de fer, les erreurs ont continué à se répandre. Contre cela, la Sainte Vierge donne un remède, la consécration de la Russie, nommément, à son cœur immaculé. Malheureusement, le pape Pie XII n'aura pas le courage d'affronter ainsi ouvertement le pouvoir communiste, et nous voyons bien que celui-ci continue à faire des ravages. Malgré tout, le pape Pie XII a consacré le monde au cœur immaculé de Marie. Il a instauré la fête du cœur immaculé le 22 août en référence à sa consécration du monde, qu'il a faite une première fois en portugais, puis ensuite dans toutes les langues pour le monde entier, avec les évêques. Cette consécration a produit des fruits. Elle a certainement évité en 1945 que la France tombe sous le joug communiste. Elle a permis à l'Autriche, qui était envahie par les Rouges, Elle lui a permis d'être libérée, les rouges sont partis, sans qu'on sache pourquoi. Ou plutôt, on sait bien pourquoi. Mais malgré tout, tout n'a pas été accompli. Et puis la troisième partie du secret, nous savons qu'il s'agit de la crise dans l'Église. Il y a eu des indices pour cela. Le fait qu'il s'agisse de la foi, puisque nous connaissons la dernière phrase du secret de cette partie. Et puis, sœur Lucie, interrogée, a dit qu'elle ne pouvait pas révéler le secret, mais que tout se trouvait dans l'Apocalypse, et particulièrement dans le chapitre 12. Et dans le chapitre 12, vous avez la deuxième bête, complice du démon, qui ressemble à un agneau avec deux cornes. L'agneau, c'est le Christ. Dans l'Apocalypse, l'agneau a sept cornes, car il a la plénitude du pouvoir. Les cornes, c'est le pouvoir. Et donc, celui qui ressemble, la bête qui ressemble à l'agneau qui a deux cornes, c'est le pouvoir religieux. Et ce pouvoir religieux, qui est un pouvoir reçu du Christ, la bête va réussir à en faire son complice. Elle va mettre le pouvoir religieux au service du pouvoir politique, le pouvoir politique étant lui-même au service du démon, de la bête. Contre cela, la Sainte Vierge a demandé la consécration à son cœur immaculé, en complément, bien sûr, de la prière et de la pénitence. Les révélations de Fatima ont commencé en 1917, mais l'application s'est poursuivie presque jusqu'à la fin de la vie de Sœur Lucie. Sœur Lucie a eu beaucoup de visions encore pendant longtemps. Elle a écrit des lettres aux évêques, au pape. Plusieurs évêques le lui ont demandé. Bref, on ne pourrait pas comprendre le message de Fatima en s'en tenant seulement à l'année 1917. Il y a par exemple un message du Christ à Sœur Lucie, lui indiquant que le clergé espagnol n'était pas digne de son ministère. Depuis les évêques jusqu'aux prêtres séculiers, réguliers, c'est-à-dire les religieux, ils n'étaient pas vraiment au service de Dieu, et Dieu leur en fait le reproche. Et par conséquent, le peuple chrétien lui-même n'est pas vraiment chrétien, peu d'âmes sont en état de grâce, et lorsque les âmes ne sont pas en état de grâce, la responsabilité est d'abord à en chercher dans le clergé. Dieu demande que les évêques d'Espagne se réunissent en une retraite et qu'ils étudient ensemble les moyens de faire revivre la piété dans leur pays. L'Espagne n'est peut-être pas plus coupable que d'autres. La France elle-même est bien coupable, nous le savons. Le bon Dieu a choisi cet exemple pour nous le faire comprendre, les choses. Comme le clergé n'a pas répondu avec le zèle qu'il fallait à la demande de Dieu, alors ce fut l'horrible guerre d'Espagne. Et puis cela a quand même permis de secouer le clergé et il y eut une belle renaissance ensuite, mais peut-être pas aussi profonde que Dieu l'attendait. Et donc, nous voyons bien, surtout la responsabilité de tous les évêques au Concile Vatican II, la responsabilité des papes modernes. Monseigneur Lefebvre, en fondant la Fraternité Saint-Pédis, a répondu à la demande de la Sainte Vierge. L'a-t-il fait consciemment ou la Sainte Vierge le lui a-t-elle inspiré sans lui montrer à quel point cela correspondait au message de Fatima, peu importe. Toujours est-il que Mgr Lefebvre a correspondu au message de la Très Sainte Vierge lorsqu'il fonda la Fraternité Saint-Pédis destinée à la sainteté, à la formation et à la sainteté du clergé. Il acheva son œuvre en 1988 en sacrant des évêques qui devait veiller non seulement sur la pureté de la doctrine, mais sur la pratique de la doctrine. La religion n'est pas une simple connaissance, elle est une mise en pratique également. Et malheureusement, le sel s'est affadi, le sel de la fraternité Saint-Pilis s'est affadi, et nous savons à quel point nous en sommes, quel point dramatique nous en sommes aujourd'hui. La réponse à cela, ça doit être dans cette sainteté du clergé fidèle, la fidélité catholique, le courage de rappeler l'importance de la pénitence. Un simple petit exemple, Mgr Lefebvre, le 1er mai 1980, avait publié ce qu'il avait appelé des ordonnances, c'est le terme ecclésiastique, pour parler de décrets, si vous voulez, ou de lois. Et dans la première page des ordonnances, qui étaient destinées aux prêtres de la Fraternité Saint-Pilis, Mgr demandait que nous recommandions aux fidèles le jeûne, et particulièrement le jeûne du carême, c'est-à-dire les 40 jours. Lorsque Mgr Lefebvre fut mort, ses successeurs ont voulu mettre ses ordonnances à la poubelle. Heureusement, elles ont été sauvées providentiellement, mais nous n'avons pas réussi à sauver les premières pages, et dans la nouvelle rédaction des ordonnances, il n'est plus question de ce jeûne. C'est un exemple. La consécration à la Sainte Vierge, et c'est la troisième partie de ce sermon, fera le triomphe de la Très Sainte Vierge. Pourquoi ? Le triomphe sera un triomphe au ciel, bien entendu, mais également un triomphe sur la terre. Et il faut que nous pensions à ce triomphe au ciel pour nous encourager à faire triompher le cœur de la Très Sainte Vierge dès ici-bas sur la terre. Elle mourut, c'est l'opinion commune des théologiens, de manière à unir sa mort à la mort de Jésus. Et il faut imaginer les anges qui viennent chercher le corps de Marie. Dieu l'a aussitôt ressuscité, il a rendu son corps glorieux, digne de pénétrer au ciel, pas seulement l'âme, mais le corps. Les anges sont venus la chercher et ont fait comme un trône sur leurs ailes. Et là-haut dans le ciel, leurs camarades, les anges, attendent ceux qui portent la Sainte Vierge. Au moment où elle se présente à la porte du ciel, c'est un triomphe d'Hosanna, d'Alléluia. Et les anges la mènent devant son fils qui la couronne et qui la fait asseoir à sa droite. Ce triomphe doit se réaliser par un premier triomphe sur la terre, le règne de la Sainte Vierge qui accompagne le règne de Jésus, le cœur de Marie qui accompagne le cœur de Jésus. Et ce triomphe, c'est aux chrétiens de le lui donner en se consacrant à elle, de manière à ce que, au milieu des ténèbres du monde, luise cette lumière de la foi et de l'amour de la Très Sainte Vierge. C'est à nous, mes bien chers frères, et cela peut paraître dérisoire aux yeux du monde. Qui sommes-nous? Combien peu sommes-nous? Et cependant, la Sainte Vierge, en faisant cela, montre au monde que par notre fidélité ne vient pas de nous, mais vient d'elle, vient de la grâce de son Fils, vient de la puissance de la croix, vient de la puissance du sacrifice. Alors, à nous de nous y mettre généreusement, sans avoir peur de quoi que ce soit, et trouvons, comme l'ange et la Sainte Vierge l'ont dit au petit pastoureau de Fatima, trouvant dans notre vie tous les moyens d'offrir des sacrifices, d'une part, des prières, bien sûr, et surtout, consacrons-nous à la Très Sainte Vierge. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.